Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Comment partager ses passions littéraires, son érudition, tout en divertissant le plus grand nombre, avec des intrigues haletantes écrites avec une bonne dose d'humour? C'est le pari que réussit depuis 25 ans notre invitée aujourd'hui, qui s'est spécialisée dans le roman policier littéraire. Bonjour Estelle Monbrun.
Bonjour.
Sous ce nom de plume, depuis Meurtre chez Tante Léonie, qui se déroulait dans l'univers de Marcel Proust, vous nous réjouissez des aventures du commissaire Fouchereau, qui, après avoir enquêté dans l'œuvre de À la recherche du temps perdu, nous a ensuite emmené à Petite Plaisance, dans la maison de Marguerite Yourcenar, puis en Bourgogne, avec Meurtre chez Colette, où vivait la célèbre romancière, partir au Chili, sur les traces de Pablo Neruda, avec Meurtre à Isla Negra. Et aujourd'hui, vous nous faites redécouvrir l'auteur des essais avec ce cinquième volume intitulé « Meurtre à Montaigne » aux éditions Viviane Ami dans la collection Chemin Nocturne, qui fête aussi ses 25 ans puisque c'est vous qui l'avez inauguré. Avant de rentrer dans ce nouveau livre, un mot peut-être pour dire que vous êtes universitaire, installé aux États-Unis depuis longtemps, spécialiste de Proust et de Yourcenar, mais que vous ne vous destiniez pas forcément à devenir romancière et auteur de meurtres pastiches. Alors que s'est-il passé pour que vous basculiez de l'étude à la fiction ?
Un accident, tout simplement. Lorsque j'ai déménagé de New York à Saint-Louis, nous avons acheté une maison. Et à l'automne, je me suis rendu compte que tous mes voisins étaient en train de ratisser leurs feuilles. Donc, ne voulant pas avoir l'air négligé ou négligente, j'ai pris un râteau, j'ai ratissé mes feuilles. Et malheureusement, je me suis fait une blessure au dos qui m'a immobilisée pendant 3 mois. Donc, je ne savais pas comment me divertir et je ne pouvais plus aller en bibliothèque, qui est ma seconde maison, la bibliothèque. Et donc, j'ai décidé d'écrire quelque chose qui m'amuserait, qui, pendant les 3 mois pendant lesquels je devais être immobilisée, me permettrait de rêver un petit peu et de me distraire surtout, et peut-être de distraire autrui. Et c'est ainsi que j'ai imaginé une intrigue qui se passerait, effectivement, dans la maison de Tante Léonie à Illiers-Combré. Alors, bien sûr, le titre de ce premier ouvrage, Meurtre chez Tante Léonie, était particulièrement retors, si je puis dire, parce que Tante Léonie n'existe pas. Il y a une Tante Elisabeth Amyot, qui était effectivement la tante de Marcel Proust à Illiers. Mais j'ai choisi de faire un meurtre entre les pages du côté de chez Swann.
Et oui, d'un seul coup, la romancière prenait la liberté que l'essayiste, l'universitaire ne pouvait pas prendre par ailleurs.
Tout à fait, parce que quand même dans la recherche universitaire, il s'agit d'être précis, d'adhérer à des codes. Et tout soudain, je me suis rendu compte que le roman était un espace de liberté extraordinaire. Je pouvais tuer, ressusciter, sans rien risquer d'une certaine manière.
Proust et Yourcenar, on l'a compris, parce que ce sont des œuvres que vous maîtrisez bien. Colette et Pablo Neruda, dont vous êtes familière. Et Montaigne aujourd'hui, comment arrive-t-il ce Michel de Montaigne sous votre plume?
Alors Michel de Montaigne est arrivé par Marie de Gournay. Parce que j'ai écrit un livre sur Marie de Gournay qui a été publié chez Corti. Ou plus exactement, j'ai ressorti de l'enfer de la Bibliothèque nationale les œuvres de Marie de Gournay qui vraiment avaient été oubliées pendant un certain temps. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Le promenoir de Monsieur de Montaigne » parce qu'elle est tombée amoureuse, non pas de l'homme, mais du texte. Et je comprends qu'on puisse tomber amoureuse d'un texte, parce que c'est ce qui m'est arrivé avec Proust, et ça peut arriver à différentes personnes avec d'autres textes qui font véritablement partie de votre vie par la suite. Alors Marie de Gournay a quand même fait plusieurs éditions des essais, et c'est une histoire très très particulière entre Montaigne et elle, parce que sa mère, la mère de Marie de Gournay, l'avait amenée à Paris. Et c'est là qu'elle a rencontré Montaigne. Elle lui avait envoyé un petit mot, il a répondu, et ce fut ensuite une histoire intéressante entre eux, puisqu'il l'a choisie comme fille d'alliance pour faire l'édition de ses essais. Et je dois dire que maintenant, les éditions sur lesquelles nous travaillons sont les éditions qui ont été faites par Marie de Gournay.
et dont on voit la silhouette, évidemment, ici, entre les lignes de votre roman, Estelle Monbrun. Alors, rappelons que Montaigne est un auteur du XVIe siècle, à qui l'on doit le texte fondateur des Essais, et qui vivait dans le sud-ouest de la France. Et il y a d'ailleurs donc une commune du nom de Saint-Michel de Montaigne, et un château dont il était le seigneur à l'époque.
Absolument. Il appartenait à son père tout d'abord, et puis ensuite il l'a un tout petit peu rénové, si on peut dire. C'était une véritable citadelle. Il en a véritablement fait un lieu d'écriture, lui-même.
Et c'est donc à partir de ce lieu que vous imaginez ce nouveau roman. En tout cas, c'est aussi l'occasion de retrouver votre protagoniste principal, le commissaire Jean-Pierre Faucheroux, désormais à la retraite, mais qui, par son ancienne assistante, se retrouve sollicité sur une affaire étrange où à la fois un étudiant, apprend-on, c'est la scène d'ouverture d'ailleurs, est tombé d'une des fenêtres de ce fameux château de Montaigne. Il y a aussi l'enlèvement de deux petites filles sur une plage, et puis entre les deux, une femme au comportement très mystérieux qui semble lié aux deux faits divers. Alors, comment va le commissaire Jean-Pierre Faucheroux aujourd'hui, Estelle Monbrun ?
Mais écoutez, il a pris sa retraite, donc c'est toujours un moment délicat. Et ça l'arrange bien, finalement, que Leïla Djemani vienne le chercher. Et il s'agit évidemment d'une affaire qui doit rester secrète parce que elle implique un diplomate qui est en train d'écrire ses mémoires. C'est un diplomate qui est lui-même à la retraite maintenant. Beaucoup de retraités dans mon livre. Et donc, on doit ne pas faire appel, par exemple, à SOS enlèvement ou quelque chose comme ça. Cette affaire doit rester discrète, essayer d'éviter la presse. Et donc, c'est une enquête qui se fait en quelque sorte en dessous.
Et ça l'arrange bien parce qu'il s'ennuie un peu. Il a des problèmes de genoux, lui.
Oui, effectivement, il n'arrive pas à se faire opérer, ce qui irrite profondément sa femme, qui du coup part pour les États-Unis.
Comme par hasard, faire un séminaire sur un auteur.
Oui. Enfin, je crois que maintenant, elle fait plutôt, elle est dans la bande dessinée pour enfants, si j'ai bien compris. Parce que vous savez, les personnages vous guident. C'est-à-dire qu'on a une idée, et puis, tout soudain, quelque chose se passe. Il y a une sorte de déclic, et on les voit faire quelque chose. Par exemple, lorsque la femme de Monsieur Faucheroux, justement, a attendu un enfant, je ne m'y attendais pas, moi.
C'est venu...
Oui, comme ça.
Comme ça.
Oui.
Et ce Jean-Pierre Faucheroux qui vous accompagne donc depuis 25 ans, qui, comme vous, enquête dans les œuvres littéraires, vous y êtes forcément attaché, mais est-ce qu'il est vraiment issu de votre imagination, Estelle Monbrun, ou est-ce qu'il s'appuie, alors non pas sur des gens que vous avez connus, mais peut-être sur des lectures ou sur un modèle idéal de policier que vous aimeriez croiser ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'étais bien consciente de n'avoir aucune information sur la manière dont la police fonctionnait lorsque j'ai écrit donc Meurtre chez Tante Léonie. Et grâce à une amie, j'ai contacté un vrai commissaire de police qui se trouve à Cannes, qui s'appelle le commissaire Blasi, je peux bien dire son nom. Et il m'a donc donné des informations sur la sorte de voiture qu'utilisait la police à ce moment-là, sur les armes, vous voyez, enfin des détails qui me permettent de ne pas être complètement dans l'irréel.
Donc vous avez une source directe aussi.
Oui, tout à fait.
Alors ici, la clé de l'intrigue est autour de la découverte d'un manuscrit inédit.
Oui.
Un fragment du supplément au voyage en Italie, rédigé donc par Montaigne en 1583, qui serait caché dans une poutre. Est-ce qu'il existe ce manuscrit, Estelle Monbrun ?
Non, je l'ai fabriqué. Je l'ai fabriqué de toutes pièces, mais ce qui existe tout de même, et qui est un texte tout à fait intéressant, c'est Le voyage en Italie, écrit par Montaigne, dont on a retrouvé le manuscrit dans le coffre de la tour, justement, de Montaigne, en 1770. Donc, c'est en soi une affaire tout à fait rocambolesque, si je puis dire, puisqu'il y a eu, c'est vrai, cette découverte. Et je pourrais peut-être faire un petit parallèle avec Marguerite Yourcenar, là. Marguerite Yourcenar qui, un jour, à la fin des années 40, reçoit une malle qu'elle avait laissée donc en Europe, à Lausanne, je crois. Donc, elle ouvre cette malle et elle trouve des papiers. Puis, elle commence à lire et, à son habitude, elle les jette dans le feu parce que dès que sa compagne Grace Rick n'était pas là, elle se débarrassait d'un certain nombre de choses. Et elle tombe sur une lettre qui commence par « Mon cher Marc ». Et elle explique, je ne savais pas qui était ce Marc, un ami, un amant, elle ne se souvient pas. Or Marc, c'était bien entendu Marc Aurèle, c'est-à-dire le destinataire de la lettre écrite par Adrien, qui deviendra Mémoire d'Adrien.
Et pourquoi vous faites ce parallèle ?
Eh bien parce que on retrouve un manuscrit dans un coffre.
D'accord.
Voilà.
Et donc c'est à partir de la découverte réelle d'un manuscrit que vous extrapolez,
tout à fait,
Estelle Monbrun, en imaginant qu'il y a peut-être eu un supplément à ce manuscrit retrouvé donc il y a plus de deux siècles. Et là du coup je me demandais avec vous, est-ce que vous mettez une limite entre le vraisemblable et l'impossible? En d'autres termes, est-ce que vous mettez un point d'honneur à n'imaginer que ce qui est plausible littérairement, ou au contraire, vous laissez cours à vos envies, quitte à inventer un document littéraire ou un manuscrit qui n'existe pas, comme c'est le cas ici d'ailleurs?
Oui, c'est un faux. C'est un vrai faux, si je puis dire. Parce que ce qui m'intéressait dans ce livre-là, c'était vraiment la question du vrai et du faux, cette fois. Je crois que nous sommes à une époque où elle se pose particulièrement. Nous sommes entourés par ce qu'on appelle les fake news. Et savoir reconnaître ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas, non pas dans l'information, mais dans le texte lui-même, me paraît une question du jour. Voilà.
Donc quand on est universitaire, on est aussi un peu détective littéraire.
Oui, oui. Tout à fait. On se doit à la rigueur, ce qui n'est pas nécessaire évidemment dans le roman. Le roman est vraiment, comme je disais, un espace de liberté, alors que les travaux universitaires doivent d'abord, je crois, être rigoureux.
Ici, ce texte est très important pour un certain nombre de personnes, parce que il est probable qu'il évoque la question de la descendance de Michel de Montaigne.
Oui.
Est-ce qu'il a en effet des descendants qui aujourd'hui vivent?
Alors il a eu évidemment une fille, Éléonore, qui elle-même a eu deux filles. Puis il avait des frères aussi, hein, Michel de Montaigne. Mais j'ai imaginé, alors là j'ai eu peut-être un tout petit peu d'audace, qu'il avait eu une liaison avec une courtisane vénitienne qui s'appelle Veronica Franco, qui a existé, qu'il a rencontrée. Parce qu'elle lui avait envoyé ses œuvres. Elle avait écrit des poèmes et lorsqu'elle a su qu'il venait à Venise, elle l'a contacté un tout petit peu, d'ailleurs, je dois dire, comme la fille d'Alliance avait fait à Paris. Donc, ils ont eu une entrevue, je crois. Et j'ai imaginé, parce que bien sûr, je n'étais pas dans la table de nuit, j'ai imaginé qu'ils avaient eu une liaison et que de cette liaison était née la descendance de Michel d'Espignac. Mais tout cela est faux, complètement faux, alors que les personnages dans le roman croient que c'est vrai.
Et ce qui vous intéresse, vous, justement, c'est de confronter cette envie de vérité avec cette réalité de mensonge.
Oui.
Et de voir à quel point même un document littéraire peut rendre fous les gens.
Absolument. Oh, j'en suis persuadée. Oui.
Vous voulez dire que vous avez des cas précis autour de vous ?
Non, mais je vois comment il y a une espèce d'esprit de compétition chez le collectionneur. C'est vraiment une joie de découvrir quelque chose. D'être le premier ou la première à lire une lettre, un manuscrit. Mais dans mon roman, malheureusement, les motifs sont moins nobles. C'est-à-dire, il y en a un, c'est pour l'argent, l'autre, c'est pour la gloire, la troisième, c'est par esprit de vengeance. Donc, comme disait c'est Mauriac, je crois, il y a plus d'épaisseur dans le mal que dans le normal. Voilà.
Et la preuve que la littérature rend fou. Peut rendre fou.
Ah, la littérature peut rendre fou, oui, oui, oui.
Se non fossi maritato, non so dir cosa farei. No, non so dir cosa farei. Oh, Giannino fortunato. Fortunato che costei si goderà, costei si goderà, costei si goderà.
Oh, davver siete garbato, oh, davver siete garbato.
Mano tanta carità, mano tanta carità.
E graziosa, e gentile, non conosco la simile, non conosco la simile.
Obbligata in verità, obbligata in verità.
Ma non tanta carità, ma non tanta carità.
Sei geloso poverino, è geloso il mio Giannino, è geloso il mio Giannino, e da ridere mi fa.
A soffrire questo dolore,
con la fame, mio signore, con la fame, mio signore, gelosia non si ricopa, gelosia non si ricopa, gelosia non si ricopa.
La signora dice bene, e soffrire mica viene. Per la mia necessità.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières en compagnie aujourd'hui d'Estelle Monbrun, auteure de la série des meurtres littéraires de la collection Chemin Nocturne aux éditions Viviane Ami et qui vient de publier donc Meurtre à Montaigne, qui à la fois nous plonge dans les lieux et l'œuvre de l'auteur des essais. Est-ce que pour autant vous êtes allée sur place, Estelle de Montbrun? Est-ce que vous avez vous aussi fait une enquête sur le terrain?
Oui, j'y suis allée, bien sûr, j'y suis allée. J'ai de la famille dans la région, donc c'est une région déjà que je connaissais. Et je suis allée sur place, j'ai pris des mesures.
Des mesures de quoi?
J'avais un petit centimètre, je voulais voir un petit peu comment les choses étaient possibles. Écoutez, j'avais mis mon mari sur un banc à Petite Plaisance pour faire le cadavre, donc je pouvais bien ici prendre mon centimètre et ne pas l'obliger à sauter de la tour. Voilà.
Ah oui, vous avez pris des mesures effectivement pour voir si c'était
possible. Possible, oui. Oui, c'est possible.
Cet accident, peut tomber d'une des fenêtres du château de Montaigne.
Oui.
Et comment est-ce que vous êtes accueilli sur place quand, pour autant que vous fassiez connaître le projet pour lequel vous êtes venu?
Ah mais je n'ai dit à personne la raison pour laquelle je venais. J'y suis allée deux fois de suite d'ailleurs et l'accueil a été tout à fait charmant. J'ai acheté une bouteille de cuvée Ekem de Montaigne. Les gens sont parfaitement gentils et c'est vraiment un endroit tout à fait magique à visiter.
Qui est donc dans le sud-ouest de la France.
Oui, à Saint-Michel-de-Montaigne, ce n'est pas loin de Libourne. Et d'ailleurs, dans mon livre, les lieux, il y a un mélange entre les lieux réels, qui sont d'ailleurs les plus nombreux, et des lieux imaginaires. Par exemple, le village de Saint-Aignac n'existe pas, sauf dans mon imagination, et c'est là qu'habite mon odieux personnage, Michel Lespignac.
Dont les petites filles sont enlevées. Donc.
Oui.
Alors, je vous pose la question de l'accueil, Estelle de Montbrun, parce que il faut reconnaître que souvent il y a des jalousies entre spécialistes d'un auteur. Et vous ne vous privez pas d'ailleurs à l'occasion de vous moquer de ces cercles littéraires et du monde universitaire. Donc est-ce qu'en allant sur le terroir où peut-être travaillent des spécialistes de Montaigne, ou en tout cas qui se veulent être exclusivement les spécialistes, il y aurait pu y avoir des tensions?
Écoutez, non, parce que moi je ne suis pas spécialiste de Montaigne. Donc c'est bien clair pour tout le monde. Je vous ai dit, j'ai écrit un livre sur Marie de Gournay, mais je ne suis pas du tout spécialiste des essais de Montaigne. Donc il n'y a aucune rivalité d'aucune sorte avec des universitaires qui certainement ne lisent pas de romans policiers.
Il y a néanmoins eu une mésaventure avec Meurtre chez Tante Léonie.
Eh bien écoutez, il y a des gens qui croient parfois se reconnaître dans des romans. Et je dois dire que tout romancier, toute romancière n'utilise jamais un seul modèle. On ne peut pas s'imaginer un instant que l'écriture s'est transposée sur des pages l'apparence, l'esprit d'une personne. Il s'agit de composites, et ça Proust l'a très très bien dit, hein. Il a dit que pour un seul personnage, il y a 8 ou 10 clés. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. On utilise évidemment son expérience personnelle, les gens qu'on a rencontrés, les lectures qu'on a faites, bien sûr, pour créer ses propres personnages.
Il n'y a pas eu un scandale?
Non, Pas encore.
Il n'y a pas une personne qui s'est publiquement attaquée à vous en disant, effectivement, en croyant se reconnaître et qui trouvait que vous aviez forcé un peu le trait.
Vous parlez de meurtre chez Tante
Léonie? Oui, oui.
Ah, mais plusieurs personnes ont cru se reconnaître. Plusieurs professeurs m'ont écrit en me demandant si c'était eux. Je les ai assurés que ce ne l'était pas. Et c'est vrai. Et c'est vrai.
Et que pense l'université de ce qu'on appelle, et ce n'est pas trivial, la vulgarisation par le roman populaire?
Lorsque vous avez écrit un roman populaire, comme vous le dites, et c'est un adjectif que je trouve tout à fait honorable, on a tendance ensuite, quand vous allez dans les colloques, parler de choses sérieuses, à entendre « Ah tiens, vous avez écrit un roman ». Voilà. Donc les deux personnes se mélangent d'une certaine manière, et c'est pourquoi j'avais décidé de prendre un pseudonyme qui a été malheureusement très vite
démantelé,
voilà, par ma faute. D'ailleurs, je suis allée à une émission télévisée et donc je savais bien que malheureusement le nom caché allait être public. Bon, c'est un choix que j'avais fait, tant pis pour moi.
Vous êtes allée en effet sur un plateau télévisé parce qu'il faut rappeler que ça avait été un grand succès il y a 25 ans.
Oui, c'est un livre qui a été traduit en 10 langues différentes, je crois.
Dont l'anglais?
Oui, tout à fait. Oui, mais
ce qui a fait d'armes.
Oui, c'est vrai. Mais je crois que ce qui m'a beaucoup plu, ce sont les couvertures des traductions. Alors, il y en a deux vraiment tout à fait particulières, en chinois et en russe. C'est drôle de voir comment l'imaginaire d'une autre culture représente ce que vous avez essayé de transmettre.
Alors restons avec Proust, puisqu'il est à nouveau au cœur de l'actualité,
oui.
Puisqu'on célèbre cette année le centenaire de son Goncourt en 1919, donc pour « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », le deuxième tome de « À la recherche du temps perdu ». Alors je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais il se trouve que sous votre vrai nom, Eliane Dezon-Jones, vous publiez « Le fantôme du petit Marcel », sous-titré « Et si nous racontions Proust aux enfants », est-ce que, en effet, puisque c'est illustré par Stéphane Heuet, est-ce que c'est en effet à destination d'un jeune public que vous avez souhaité écrire ce livre?
Alors, c'est aussi l'histoire d'une maison, comme Meurtre chez Tante Léonie avec mes feuilles. C'est-à-dire que nous avions pendant très longtemps une maison à Ailier, Combray.
C'est qui nous?
Moi,
votre famille, donc.
Voilà, oui. Et nous avons dû nous en séparer assez récemment, en fait, en 2015. Et j'ai voulu conserver un souvenir écrit de cette maison-là. Et j'ai pensé donc faire rencontrer le fantôme du petit Marcel, qui est à la recherche de son titre, qui n'arrive pas à trouver son titre, avec deux petites filles. Voilà. Donc il les rencontre et elle l'aide à trouver son titre. Et bien sûr, il y a des sauts dans le temps. Il y a une espèce d'achronologie, puisque Marcel Proust, le petit fantôme, ne connaît pas ce qu'est un ordinateur. Et c'est tout à fait ludique, mais ce que j'ai fait dans ce texte-là, comme je fais dans tous les autres, c'est que je fais des citations. Et par exemple, c'est vrai que Proust a beaucoup hésité sur le titre « À la recherche du temps perdu », et j'introduis dans ce livre-là les autres titres auxquels il avait pensé. Quelques stalactites du passé, les jours attardés, il y en a trois ou quatre. Donc je les mets à l'intérieur de ce livre, parce que mon idée, si vous voulez, c'est que les lectures d'enfance vraiment sont avec nous tout le temps. Et je pensais que donner des noms, ne serait-ce que Swann, Guermantes, etc., amènerait un jeune public plus tard, à aller peut-être au texte de Proust et à retrouver cette espèce d'enchantement qu'on a dans l'enfance. Évidemment, ce qui aide extrêmement, ce sont les illustrations absolument somptueuses de Stéphane Huet, qui a, vous savez, mis Proust en bande dessinée au départ, qui est en train d'y travailler même en ce moment. Et lorsque j'ai fini ce petit conte, je n'ai pensé à personne d'autre qu'à lui, parce que moi j'avais beaucoup aimé la manière dont il avait envisagé de vulgariser dans le bon sens, de populariser dans le bon sens, à la recherche du temps perdu, qui reste tout de même un texte, pour certains, difficile.
Oui, une façon de mettre des petites graines, peut-être, en terre, de façon à ce que d'ici à quelques années, cela devienne de jolies fleurs, des cattleyas, par exemple.
Ah oui, pourquoi pas.
Alors, vous êtes Estelle Monbrun aussi en France pour le printemps proustien, qui est cette manifestation qui fête ce centenaire du Goncourt. D'ailleurs, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on célèbre un auteur, non pas à l'occasion de sa naissance ou de sa mort, mais à l'occasion d'un prix. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous ?
Ça veut dire que lorsque Proust a eu le prix Goncourt en 1919, ce fut un scandale, on peut le dire. D'ailleurs, il y a un très beau livre de Thierry Lager qui s'appelle « Proust, prix Goncourt, une émeute », qui explique bien qu'à l'époque, on sortait de la guerre, que le livre de Proust était en concurrence avec, par exemple, les Croix de bois de Dorgelès, que, bien entendu, le public s'attendait davantage à ce que soient mis en avant les événements récents, et non pas, vous l'avez dit, le second volume d'un livre en train de se faire. Et donc, il y a eu quand même des oppositions. Mais je crois, sans vouloir critiquer Dorgelès, que l'œuvre de Proust est peut-être plus importante que les Croix de bois. Voilà.
Donc, ce Goncourt a changé aussi quelque chose. Alors, non pas dans l'œuvre de Proust, qui sans doute serait allée au terme de sa recherche, mais dans l'histoire du Goncourt, ou en tout cas une façon de lire la littérature contemporaine.
Je le crois, effectivement. Ça a été un tournant dans l'esprit Goncourt, dans l'esprit du prix Goncourt, je crois, oui.
En tout cas, il y a toujours une ferveur autour de Marcel Proust, dont pourtant l'œuvre, en effet, est très volumineuse. Certains s'y perdent dans la phrase, d'autres ne vont pas forcément au terme de chacun des volumes. Mais il y a toujours quelque chose de prestigieux autour de ce nom de Marcel Proust. Comment est-ce que vous expliquez ça ?
Parce que c'est une grande œuvre. C'est une œuvre qui nous accompagne tout le temps, qui parfois résiste, c'est vrai, et dans laquelle il faut entrer par où on peut. Et donc on peut lire Un amour de Swann, qui est à la troisième personne, qui est tout à fait d'un style tout à fait différent, encore que bien sûr les thèmes soient les mêmes, l'amour, la jalousie, etc., la musique. Mais il me semble que chacun doit pouvoir entrer dans le livre à un moment donné qui n'est peut-être pas la première phrase « Longtemps je me suis couché de bonheur ». D'ailleurs, de temps en temps avec mes étudiants qui n'arrivaient pas à lire ces premières pages, je leur conseillais d'aller à ce qui est le chapitre 1 et qui commence Combré, vue de Dilieu à la ronde, c'est-à-dire de faire l'impasse sur la Madeleine pour y revenir plus tard. Parce que l'entrée de ce livre est finalement théorique, si on y pense bien. C'est l'évocation de la mémoire involontaire comme ce qui provoque l'écriture. Et lorsqu'on passe directement à Combré, c'est l'histoire d'un enfant. C'est l'histoire d'un enfant qui découvre les relations entre les personnes, la musique, la peinture, la littérature. Et tout le monde a eu une enfance. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'entrer par Combré que par la Madeleine, si je puis dire. On revient à la Madeleine, il faut absolument revenir à la Madeleine. Mais on s'accoutume aussi au rythme du texte, ce qui fait que c'est plus aisé, après avoir fini peut-être du côté de chez Swann, de revenir aux 40 premières pages.
Et d'ailleurs, il me semble que votre livre « Meurtre chez Tante Léonie », quand il a paru à Élie Combré, justement, ça a été une vente phénoménale.
Je crois que j'ai contribué à la vente des Madeleines, oui.
Quel est le prochain auteur sur lequel vous allez travailler, Estelle Monbrun ?
Ah ben c'est un secret encore.
C'est un secret, donc on ne dit rien. Ce que je peux dire en revanche, c'est que donc viennent de paraître dans un coffret poche les trois premières enquêtes du commissaire Fouchereau, Meurtre chez Tante Léonie, donc Meurtre à Petite Plaisance et Meurtre chez Colette, dans la collection Bis chez Viviane Amy, que paraît donc aussi chez Viviane Amy le fantôme du petit Marcel avec les dessins de Stéphane Huette sous votre nom Eliane Dezon-Jones, et puis ce cinquième volume dont on a parlé tout au long de cette émission, Meurtre à Montaigne. Merci beaucoup Estelle Monbrun.
Merci à vous. Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.